Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus au salon Albert Mola pour cette présentation du livre « Dans ces lignes, l'autre » qui a été dirigé par M. David Alliot. Je voudrais tout simplement, brièvement, pour que les choses se passent d'une manière humaine et sympathique, dire que donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a quelques personnes dans la salle qui me connaissent, je m'appelle Jean-Michel Deveza, j'enseigne la littérature française contemporaine à l'Université de Bordeaux 3, et c'est toujours pour moi un plaisir de travailler avec la librairie Mola. Je tiens à travers la personne de Corinne Krabos, ici présente, de remercier toute l'équipe et M. Denis Mola pour le travail qui est fait depuis des années dans cette ville pour la défense du livre et de la culture. Cela étant, nous allons parler de ces lignes, de ce livre extrêmement important. Et c'est un plaisir pour moi de dialoguer avec M. David Alliot. Il se trouve, c'est ainsi que, indépendamment de la différence d'âge, nous nous intéressons à des champs, au premier abord, très différents et très éloignés l'un de l'autre. M. David Alliot, spécialiste de ces lignes, est aussi spécialiste d'Aimé Césaire. Et donc, au premier abord, un Célinien s'intéressant, de mon point de vue, à un très grand poète d'expression française comme Aimé Césaire, c'est quelque chose qui peut surprendre, les lecteurs. Comment peut-on à la fois être Célinien et Césarien ? Cher ami.
Bah écoutez, merci déjà d'être ici si nombreux. Merci à la librairie Mola de m'accueillir parmi eux. Très belle librairie, donc. Et pour répondre à la question, en fait, effectivement, je travaille sur Louis-Ferdinand Céline depuis une vingtaine d'années. Aimé Césaire, c'est un peu plus récent, c'est une dizaine d'années. Et on me pose régulièrement cette question. Quand je suis invité dans des émissions de radio, on me dit comment on peut s'intéresser à Céline et à Césaire. En fait, la réponse est assez simple. Ce sont deux personnes qui ont plus de points communs qu'il n'y paraît. Ce sont deux personnes qui ont inventé un langage, un langage poétique extrêmement riche pour Césaire, une autre forme de langage pour Céline. Ce sont deux personnes qui se sont engagées politiquement. Alors Aimé Césaire, effectivement, c'est au PCF, et Céline, c'est dans d'autres voies un peu plus marquées à droite. Ce sont deux humanistes à leur façon, et ce sont des personnes qui aimaient l'être humain, même si on peut dire que Céline, effectivement, a hurlé des choses dans ses pamphlets. C'est des gens qui aimaient l'être humain. Il ne faut pas oublier que Céline était aussi un médecin des pauvres, il aimait l'être humain en tant que tel, ainsi que Césaire. Donc, en fait, il y a plus de points communs que de différences. Et alors, effectivement, si on se base uniquement d'un point de vue politique ou d'engagement politique, effectivement, ils sont à l'opposé. Mais pour le reste, ils ont plus de points communs que de différences. C'est pour ça que, pour moi, ça me semble parfaitement naturel de travailler sur les deux.
Alors, j'opine, mais j'ai envie, de me faire l'avocat du diable. C'est mon rôle de vous permettre d'exprimer votre pensée et d'exposer à l'assistance le sens et la finalité de votre travail. Mais il faut le faire sans complaisance. Alors, je me souviens d'une époque où j'étais jeune, à l'université, je lisais Céline, j'adorais Céline, mais je lisais Céline en cachette, parce que dans les années 70, avouer à l'université que l'on aimait Céline et que l'on aimait les romans de Céline, cela nous exposait, nous vouait aux gémonies. Donc j'ai envie de vous dire, vous, comment avez-vous fait pour être séduit et par Céline et pour lire Céline et décider de passer 20 ans de votre vie à travailler l'œuvre de Céline ?
Alors, je vous rassure aussi, il n'y avait pas qu'à l'université, hein, où Céline était vouée aux gémonies, c'était un petit peu partout. Alors, effectivement, j'ai commencé à travailler sur Céline il y a une vingtaine d'années, car j'ai commencé mon parcours comme libraire à l'origine. Donc, pour vous dire, j'ai pu apprécier l'établissement qui est situé un petit peu en dessous de nos pas. Donc, une grande librairie dans banlieue de la région parisienne. Et moi, à la base, j'ai plutôt une culture 18e, 19e. Donc, moi, c'était plutôt Barbey d'Aurevilly, Balzac, Zola, Flaubert. Et donc, bon, je m'occupais du rayon poche, et mes collègues me disaient, il faudrait quand même que tu passes un petit peu à l'étape supérieure, à lire un peu le 20e. Et en 91, ben, ils m'ont dit, tiens, il faudrait que tu lises un peu Céline. Bon, moi, pas de problème. En plus, je crois que c'est une femme, donc ça commençait très, très bien. Il y avait Colette hein, dans le rayon, et, pourquoi pas Céline à côté, hein, aucun problème. Donc, je croyais que c'était une femme, et on m'a dit, non, c'est plus compliqué que ça, mais lis-le quand même, tu verras, c'est très bien. Donc, je lis Voyage au bout de la nuit, et là, en fait, ça a été c'est là que vient la révélation. En fait, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu lire auparavant. C'était quand même, en termes de style, d'apport littéraire, c'était quand même extrêmement différent. Et là, en fait, ça a été un choc littéraire au sens premier du terme. Et ensuite, j'ai embrayé sur Mort à crédit aussitôt, qui est vraiment le deuxième grand chef-d'œuvre de Céline, vraiment une merveille littéraire assez extraordinaire. Et j'ai continué, j'ai commencé à lire des bios, donc j'ai eu une période Céline assez intense. J'ai eu la correspondance, les lettres à Gallimard, qui sont sorties à peu près la même période. Et j'ai découvert là un véritable auteur, et ça ne m'a jamais réellement quitté. Bon, je ne dis pas que je lis que ça, heureusement je lis plein d'autres choses, mais j'ai continué à travailler sur Céline, et c'est comme ça qu'on commence un petit peu à s'intéresser à un auteur, on commence à chercher, quand on lit les biographies, ce qui est toujours intéressant dans les biographies, c'est les zones d'ombre. Il y a toujours des passages dans les biographies où un biographe passe rapidement, où c'est assez rapide. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, parce que ça veut dire que soit il ne l'a pas fait, soit il n'y a pas de documents, soit il n'y a pas de choses. Et donc, c'est là, après, on commence à creuser dans les zones d'ombre. Et là, ça devient très, très intéressant. C'est là qu'on retrouve les documents inédits.
Est-ce que, enfin, voyez-vous, donc, vous avez découvert Céline dans les années 90, et il y a eu une rencontre.
Tout à fait.
Entre une œuvre et vous-même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que le collègue que je vais citer, vous référez à lui dans votre présentation du livre, est-ce que vous n'avez pas bénéficié un petit peu du climat qui a commencé à changer dans les années 90 grâce aux travaux de Henri Godard, alors, le professeur à Paris 7 ?
Effectivement, moi je n'ai pas connu cette période des années 70 où Céline était vraiment la chape de plomb, où effectivement lire Céline c'était en cachette et de manière un peu honteuse. Moi, effectivement, avant que je m'intéresse à Céline, il y avait quand même deux grands événements qui ont fait que Céline est revenue, on va dire, dans le panthéon des lettres nationales. C'est déjà les travaux d'Henri Godard, effectivement, les travaux scientifiques d'Henri Godard dans la Pléiade, donc qui a fait un travail quand même remarquable de mise au point des textes de façon scientifique et indiscutable. Dans un registre plus grand public, on a Fabrice Luchini, qui a quand même popularisé Voyage au bout de la nuit grâce à ses lectures en théâtre. Donc ça a ramené quand même le Céline, on va dire, auprès du grand public. Et il y a un autre personnage, c'est bien sûr Jacques Tardy, qui a illustré Céline et Voyage au bout de la nuit. Alors on peut taxer Jacques Tardy plein de choses, mais certainement pas d'extrême droite, hein. C'est même plutôt l'autre bord. Et en fait, la rencontre Jacques Tardy-Céline a créé un électrochoc, et finalement on s'est dit pourquoi un type comme Tardy, qui est plutôt auprès de la commune ou de l'extrême gauche, s'intéresse à Céline. Et en fait, c'est là qu'a commencé le retour en grâce de Céline. C'était très lent, et ça s'est accéléré dans les années 2000, notamment avec l'achat du manuscrit de Voyage au bout de la nuit par la Bibliothèque nationale en 2001, pour un montant record de 2,5 millions d'euros. Et c'est là que, on va dire, le grand public, il y a eu un véritable déclin dans le grand public, parce que là, la Bibliothèque nationale, c'est pas anodin, c'est l'État, c'est-à-dire tout le monde, les impôts, a acheté le manuscrit d'une personne qu'on disait, auparavant, on disait c'était un salaud, un antisémite, une ordure, et là, la BNF achète à un prix record son manuscrit. C'est là qu'a commencé le véritable déclic auprès du grand public. Mais c'est vrai que dans les années 90, c'était beaucoup plus facile qu'à une autre époque. Oui, tout à fait.
Alors, si vous me permettez, relevant d'une génération qui est la génération de 68 et des années 70, effectivement, à cette époque, quand nous étions étudiants, lire Céline, alors qu'on était étudiant en lettres, c'était exprimer une complaisance à l'endroit de l'antisémitisme et de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre nous et celles d'entre nous qui avaient envie de lire Céline parce qu'ils estimaient déjà que c'était l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, le faisaient d'une manière un peu honteuse.
Bon. Oui, bien sûr.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelqu'un comme Henri Godard, qui a dirigé dans la collection de la Pléiade la publication de Céline, a beaucoup œuvré. Beaucoup œuvré dans ce sens-là. J'ai le sentiment, nous l'avons évoqué tout à l'heure en aparté, qu'aujourd'hui, des gens raisonnables, quelle que soit leur opinion, ne vont pas dénigrer Céline en disant que c'est un écrivain de seconde zone ou de troisième zone. Ils auront du mal à le faire s'ils sont sensés et raisonnables. Mais ils vont plutôt considérer que Céline est un grand écrivain parce que, pour eux, c'est un styliste. Ils vont insister sur les qualités d'écriture, sur les procédés, sur le fait que ces romans sont des romans parlés, que c'est effectivement un styliste, je me permets, ce n'est pas pour céder à l'hyperbole, mais c'est sans doute un styliste assez génial. Tout le monde s'accorde à l'université pour dire cela, mais en même temps, on voit bien que ces louanges cachent une certaine gêne quant au discours. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est le discours actuel de dire effectivement que Céline, d'être un grand écrivain, est un odieux pamphlétaire. Alors effectivement, difficile d'aller contre et de dire oui, c'est un génial pamphlétaire, un mauvais écrivain. Donc ça, ce jour, on n'a pas encore réussi. Alors sur le styliste, effectivement, on va commencer par cet aspect-là. Céline, effectivement, est un des grands stylistes du XXe siècle. En fait, il y a deux grands stylistes, c'est Marcel Proust et Céline. Ce qui fait que qu'est-ce qu'un grand styliste ? C'est, on va dire, une œuvre qui survit largement à leur auteur. Si on regarde, par exemple, Proust, c'est quand même la description d'un monde ultramondain parisien de la fin du XIXe siècle. Objectivement, ça intéresse qui ? 300 personnes, à tout casser. Or, aujourd'hui encore, on lit Proust, on l'étudie, on l'analyse. Donc ça veut dire que la description du monde qui a aujourd'hui disparu, il a créé une force, un univers tellement riche, avec un style tellement puissant, que l'œuvre encore est encore lue. Céline, c'est pareil. Céline est mort il y a 50 ans, et toute son œuvre, Le Voyage au bout de la nuit, c'est quand même un livre qui va avoir 80 ans l'année prochaine. Donc c'est une œuvre qui a 80 ans, qui parle de la banlieue dans les années 30, de la guerre de 14, mais le discours est encore largement actuel. C'est ce qui fait que la grande modernité de Céline, c'est son style qui lui a permis de survivre, et aussi c'est l'histoire, le contexte historique. Donc c'est ça un grand styliste. Et Céline, je dis souvent, on provoque un petit peu quand même, que Céline n'a rien inventé en termes de style. En fait, Céline utilise plusieurs procédés stylistiques. Le premier, c'est effectivement l'apport de l'argot dans la langue. Procédé qui existe depuis François Villon, donc à peu près 5 siècles. Le langage parlé, dans le roman, qui existe depuis Léon Blois, Aristide Bruant et autres, donc c'est pas en soi nouveau.
Barbus
aussi, tout à fait, le feu. Et donc, en fait, Céline, par contre, va avoir l'intelligence de fusionner tous ces genres qui étaient séparés en un seul. Et Céline donc, va avoir l'intelligence de tous ces fusionnés. Et à ça, il va apporter sa touche personnelle, qui, à mon avis, mais là, c'est ma théorie très personnelle, c'est que Céline est le premier à avoir compris que le cinéma va changer la donne. Il ne faut pas oublier que lorsque Céline écrit, le cinéma est en train de passer du muet au parlant. Et Céline est le premier à comprendre que le cinéma va tuer le descriptif. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand on lit Zola, quand on lit, par exemple, Germinal de Zola, on a la description du coron, la moindre table, la moindre fleur, tout est décrit de façon parfaite. Avec Céline, on n'est plus dans le descriptif, on est dans l'émotion. Parce que le cinéma tue complètement le descriptif. Et Céline est le premier à se rendre compte que si on veut survivre d'un point de vue littéraire, il faut reprendre les éléments du cinéma, c'est-à-dire l'émotion. Et il va y ajouter une chose, à mon avis, très importante, c'est la vitesse. C'est le premier à comprendre que le XXIe siècle sera mécanisé, sera violent, et sera le siècle de la vitesse. Ce en quoi, effectivement, il ne sera pas contredit par les événements qui vont suivre. Et donc, c'est ça, en fait, le style de Céline. C'est un style qui mélange plusieurs choses qui ont été fusionnées. Alors après, il y a sa vie, bien sûr, il y a l'autobiographie, hein, il y a son parcours de vie qui va faire que ce style est d'une très grande richesse. On parlait des pamphlets. C'est le problème aussi des pamphlets, c'est que ce sont des pamphlets remarquablement bien écrits. C'est un petit peu une provocation de dire ça, mais lorsqu'on lit Bagatelle pour un massacre, moins, on va dire dans une moindre mesure, L'école des cadavres, qui n'est pas terrible, mais lorsqu'on lit Bagatelle pour un massacre, Céline met son génie stylistique dans des pamphlets. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, bon déjà le pamphlet antisémite n'est pas une rareté en soi, hein, c'était même très courant, et l'antisémitisme était une valeur, on va dire, malheureusement, le plus partagé de la société française. Le grand crime, entre guillemets, de Céline, c'est de mettre son génie littéraire dans les pamphlets. C'est d'arrêter déjà ses romans, il a arrêté Casse-pipe, pour écrire Bagatelle pour un massacre. Et il y a des passages, d'ailleurs, dans Bagatelle pour un massacre qui sont remarquables. C'est notamment la partie où il parle de Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, qui sont, on va dire, magnifiques. On dit souvent que Céline a un très grand talent pour décrire les villes. Lorsqu'il décrit New York, l'arrivée à New York dans Le Voyage au bout de la nuit, qui est extraordinaire, et lorsqu'il décrit Leningrad dans Bagatelle pour un massacre, c'est assez fabuleux aussi. Donc il faut croire que les villes l'inspirent. On a la ville debout, c'est New York, et on a la ville étalée, comme il dit, c'est Saint-Pétersbourg. Donc c'est ça, en fait, le grand crime de Céline, c'est que c'est à la fois un styliste dans le roman, et aussi, j'ai envie de dire malheureusement, dans les pamphlets aussi.
– C'est-à-dire que peut-être vous êtes de ceux et de celles qui aujourd'hui commencent à dire que nous sommes adultes et notre société est tout à fait en mesure de regarder l'entièreté, la totalité de la production littéraire de Céline et de prendre en compte aussi les pamphlets, ce qui ne veut pas dire qu'on avalise son discours.
– Bien sûr.
– Mais plutôt que de considérer qu'il y a un pan de la production littéraire qui n'existe pas et qui est occulté, mais… de dire qu'il est temps de se confronter à la totalité, à l'entièreté de l'œuvre.
Ben, c'est le discours actuel, effectivement, c'est de dire les romans, ça va, mais le reste, on ne sait pas. Or, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'une œuvre, c'est un ensemble, et que, quelles que puissent être condamnables certaines parties de l'œuvre, on peut faire pareil sur d'autres écrivains, on peut parler de Voltaire, par exemple, qui a écrit quand même des choses remarquables, et qui a écrit aussi des choses moins glorieuses sur les Juifs, sur les Noirs, sur le Canada qu'il faut abandonner, etc. Alors, si on commence à faire la censure sur ce qui ne nous plaît pas, et que l'on doit séparer de l'œuvre, ça va être le règne des ciseaux et la Libri Mola va réduire, on va dire, d'un bon tiers, parce que si on commence à enlever ce qui plaît pas ou ce que la morale choque dans les œuvres d'écrivains, on va vers de grands débats. Alors effectivement, moi je considère que l'œuvre de Céline est un seul tenant. Alors à ce jour, il y a un obstacle qui fait que les pamphlets ne sont pas disponibles, donc inutile de vous précipiter en bas pour demander Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les Baudrins ne sont pas en vente. Ou alors bien cachés peut-être, on ne m'a pas prévenu. Donc ça c'est d'autres genres de librairies qui font ça. Et donc ces pamphlets ne sont pas disponibles, non pas pour une interdiction quelconque, c'est la veuve de Céline qui s'y oppose, donc à ce jour. Et donc, on ne sait pas ce qui adviendra plus tard, mais à ce jour, elle est encore en vie et elle s'oppose à ce que les pamphlets soient réédités. Donc, ce qui fait que malheureusement, les gens qui voudraient se faire leur opinion ne peuvent pas se faire leur opinion. Ou alors, il faut dépenser 150 euros par volume, ce qui fait donc
Minimum, ce qui fait donc
450 euros pour lire les trois pamphlets de Céline. Ou alors, il faut aller sur Internet, on peut les télécharger assez rapidement, ce qui fait que, dans l'absolu, c'est assez hypocrite aussi de dire que les pamphlets ne sont pas accessibles. Vous allez sur Internet, tapez Bagatelle pour un massacre, en un quart d'heure, vous les téléchargez sur votre ordinateur. Donc, bon, après, dans une édition plus ou moins fautive et plus ou moins tronquée, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, alors effectivement, on parle d'une œuvre de Céline qui, à ce jour, n'est pas complète, qui n'est pas complète en librairie, qui n'est pas complète d'un point de vue non plus scientifique du texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition, scientifique, annotée, présentée. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'on devrait les publier, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on peut les trouver assez facilement sur Internet, donc ça nourrit les thèses conspirationnistes du genre, si c'est interdit, c'est qu'il y a une vérité dedans, donc on nous la cache. L'autre fait, c'est que les pamphlets sont édités par des librairies d'extrême droite. Donc si vous voulez vous les procurer, il faut aller voir des libraires un petit peu spéciaux, avec une production littéraire qui n'est peut-être pas forcément géniale voir. Donc c'est quand même assez glauque d'aller les acheter en librairie. Donc moi, je préfère qu'ils soient disponibles, bien annotés, bien présentés par Henri Godard ou d'autres, qui feront une édition scientifique de référence et qui expliqueront au lecteur le contexte politique et le contexte littéraire de cette création. Mais on est...
Si vous me permettez, je suis d'accord avec vous, et si vous me permettez juste une chose, c'est précisément à l'époque où j'ai commencé à lire Céline, les pamphlets, nous pouvions les trouver chez les bibliophiles. Et donc, cela coûtait très cher.
Bon. Ça coûte toujours assez cher. Oui.
Aujourd'hui, la cote d'un pamphlet édition originale, ça coûte cher. Ils ne sont pas réédités. Il n'y a aucune interdiction. Maintenant, l'élément nouveau, c'est que si l'on veut se procurer le texte sur Internet, c'est très facile.
Tout à fait.
Ça ne coûte rien. On peut télécharger les choses. Alors que dans les années 70, si l'on voulait lire un pamphlet, il fallait aller chez un libraire, un bibliophile.
Un bouquiniste.
Absolument. Voilà. Là, la situation a changé avec les nouvelles technologies où quelqu'un veut avoir accès au pamphlet de Céline, il peut le faire. C'est juste une question de téléchargement.
Oui, mais à la limite, ça pose aussi un autre problème. Comme ce sont des fichiers informatiques, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas été bidouillé non plus ?
Je suis bien d'accord avec
vous. Voilà. Y a pas, moi, qu'est-ce qui m'empêche de rajouter un ou deux chapitres comme personne ne les connaît ? Mais on ne peut pas les comparer par rapport à des éditions de référence ou annotées. Donc ça peut passer complètement...
Je me permets, enfin je n'ai pas à être juge et parti, je ne suis qu'un passeur ce soir, mais je pense que votre argument est assez raisonnable de dire qu'une édition savante, une édition critique de Céline, de tout Céline, comprenant les pamphlets, serait quelque chose d'assez raisonnable. Parce que ce n'est pas... parce qu'on publie un texte, qu'on avalise
bien sûr
le discours retenu par le texte.
Et puis, c'est aussi une mentalité d'aborder les choses. En ce moment, la mentalité, c'est de dire, nous savons, nous sommes des gens intelligents, on le lit pour vous et on vous dit ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas en lire. Moi, je pense que les gens sont assez intelligents pour se faire leur opinion par eux-mêmes, de lire les pamphlets, de dire, voilà, c'est nul, voilà, c'est bien, ou voilà ce que j'en pense ou j'en pense pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un Célinien qui a mis une hypothèse il y a quelques années. Il dit le vrai scandale, ce sera lorsque Bagatelle pour un massacre sera disponible en poche. Donc là, on n'en est pas encore. Mais je pense qu'un jour, je pense que les Français sont assez éduqués, savent lire, et peuvent lire par eux-mêmes les pamphlets de Céline. Alors, il y aura un appareil critique qui explique quelle est telle personne, les contextes. Moi, je trouve ça parfaitement normal. Mais actuellement, le discours, c'est de dire, nous, les savants, on sait faire, on va vous expliquer comment. Moi, je pense que les Français, n'importe qui, doit pouvoir lire les pamphlets.
Si je vous ai bien compris, c'est un peu la démarche qui a guidé la direction du livre qui nous réunit ce soir. Dans la mesure où... vous avez réuni, c'est un livre qui fait plus de 1000 pages, qui est passionnant, parce qu'en fait, vous ne prétendez pas nous offrir un Céline, mais évidemment, par allusion à D'un château l'autre, votre titre c'est D'un Céline l'autre, vous montrez non pas toutes les facettes, mais une multitude de facettes, en réunissant un certain nombre de témoignages, parfois d'écrits littéraires, pas seulement des documents et des témoignages, qui vont d'une manière qui peut poser problème de textes de rebatté jusqu'à le texte de témoignage de la concierge.
Tout à fait.
Bon, et donc, votre objectif, c'est de donner au lecteur des éléments permettant d'avoir une saisie, non pas totale et entière de Céline, mais du moins contrastée, ne pas rester à un Céline.
Tout à fait. Bon, en fait, sur Céline, on peut dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont déjà été bien travaillés. Les textes ont été mis au point par Godard, la correspondance, pareil, est bien défrichée aussi. Il restait en fait un gros morceau, c'était bien sûr les témoignages. Car Céline a quand même une grande particularité, c'est qu'il a eu une vie, on va dire, assez passionnante, quoi qu'on en dise, ou sur ses opinions ou autres. Il a eu une vie assez passionnante et il a rencontré plein de gens assez extraordinaires. Alors ça va de gens très sympathiques, on pourrait citer Arletty, par exemple, des gens un petit peu moins sympas. On peut citer, par exemple, Rebatet, comme dit tout à l'heure. Bon, il y a aussi pas mal d'Allemands aussi qui sont cités dans l'ouvrage, dont pas mal d'anciens SS ou de belles crapules en tout genre. Donc Céline a quand même croisé dans toute sa vie un nombre assez impressionnant de personnes, et son passage dans la vie de ces personnes-là a laissé une trace dans des lettres, dans des journaux intimes, a laissé des témoignages qui sont en fait la matrice de ce livre. Alors ce livre est né d'une façon un petit peu étrange, il y a maintenant 7 ans. C'est en fait, à force de travailler sur Céline, on accumule beaucoup de documentation. Et sur Céline, en fait, j'avais un dossier témoignage. Donc j'avais les lettres, un dossier les textes, les articles, j'étais assez organisé à l'époque. Et j'avais un gros dossier témoignage. Et de ce dossier, j'ai vu qu'à un moment donné, il prenait une ampleur assez, assez importante. Et il était à l'époque classé par alphabétique de personnages. Je l'ai reclassé, mais par période. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vision assez étrange de Céline, très différente de ce que l'on vous propose, puisque dans les biographies, en général, ils vont citer 3-4 lignes ou un morceau du témoignage. L'intérêt était justement de présenter ces témoignages dans leur intégralité, dans la mesure du possible, et classé par période, ce qui faisait que Céline devenait accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que si je classais, par exemple, par ordre alphabétique, il fallait quand même quelques connaissances pour par rapport à certains témoins qui ne sont pas très connus. Bon, Arletty, ça ne posait pas de problème, Rebatet non plus, mais il y en a d'autres, Petit Bonheur, La Chance.
– Par exemple, Elisabeth Craig.
– Voilà, Elisabeth Craig passe encore, José de Chambrun, Lucien Combel, Robert Dubar, donc ça, c'est des noms pas très connus du tout.
– Le Vigan ?–
Le Vigan, ça était connu, donc voilà. Donc c'était un mélange de noms connus et inconnus. Mais en les classant par période, du coup, c'est en fait la vie de Céline qui défile, racontée par les gens qui l'ont connue. Alors ça va de son instituteur jusqu'à sa femme qui va lui fermer les yeux en 61. Et donc on a une vision très, très différente de Céline. C'est Céline vue par les autres, racontée par les autres. Et là, on a un personnage quand même qui est assez extraordinaire. On voit le personnage évoluer. D'ailleurs, on sort de jeune homme au début dans la vie, assez plein d'entrain, médecin un petit peu fou, un petit peu original, et on voit l'écrivain qui naît en 32 avec L'ouvrage au bout de la nuit, et on voit le personnage s'obscurcir à partir de la fin des années 30, on sent arriver les pamphlets, puis après on a le vieux qui gêne au Danemark et à Meudon pendant les dernières années de sa vie, le clochard malfagoté. Donc en fait, on voit Céline, c'est une sorte de biographie de Céline, mais sans la raconter, en fait, uniquement par ceux qui l'ont croisée. Ça donne effectivement un portrait original de Céline. Et ce portrait est d'autant plus original qu'il y a quand même un tiers de témoignages qui sont inédits, que j'ai retrouvés soit en allant explorer des archives lointaines ou des choses un petit peu vraiment dans les coins, en allant interviewer les derniers témoins aussi. J'ai rencontré les dernières personnes qui ont connu Céline, dont certaines sont mortes d'ailleurs depuis la rédaction. Je pense notamment à François Santin, qui était un ancien amant de Jean Genet, qui était un fan de Céline aussi. Et il y a la fille de Céline. J'ai en fait le seul témoignage à la fille de Céline est dans ce livre-là. Et elle est décédée donc là, début mai, le 9 mai dernier. Donc voilà, la fille unique de Céline est décédée. Donc en fait, l'intérêt de ce livre, c'est de montrer, d'après les témoignages qui sont restés, mais aussi avec l'apport des témoignages inédits qui ont été recherchés un petit peu dans les coins.
Je dois dire, bon, vous êtes modeste, je dois dire que les témoignages sont précédés par des notices. Vous donnez toutes les informations pour que le lecteur puisse savoir qui parle, le situer historiquement, sur le plan littéraire, etc. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un livre qui s'adresse uniquement aux érudits et aux spécialistes de Céline.
Hein,
voilà. Quelqu'un qui a lu Voyage au bout de la nuit et qui voudrait approfondir sa connaissance de Céline peut rentrer dans votre livre très facilement, vous le guidez.
Alors en fait, il y a deux façons d'entrer dans ce livre. Soit vous vous armez de courage et vous le lisez d'un bout à l'autre. Alors bon courage, il y a 1200 pages. Donc vous pouvez le prendre d'un bout à l'autre. Donc pourquoi pas, hein. Certaines personnes m'ont dit qu'ils l'avaient fait, j'avais trouvé ça fabuleux. Ou alors vous picorez en fonction de soit du personnage, soit de la période qui vous intéresse. Donc la partie sur le scandale du Goncourt 32 a intéressé des lecteurs. Donc là, après, vous picorez comme vous le voulez. Et effectivement, tous les témoins sont précédés. Alors tous les textes sont annotés parce que comme Céline raconter aussi beaucoup de conneries, pour pas dire autre chose. Je rétablis des fois un peu la vérité avec des notes en disant attention, voilà, c'est pas avéré, il faut faire un petit peu attention à ce qu'il raconte.
C'est un fabulateur de temps en temps.
Oui, bien sûr. Il y a la fameuse légende de la trépanation de Céline. Ceux qui liront l'ouvrage d'un bout, ils vont voir que la trépanation, elle évolue. Pareil, il y a son taux d'invalidité. Il est invalide de la Première Guerre mondiale. Alors ça aussi, entre 45% et 75% en fonction d'interlocuteur. Donc pour la fiabilité historique, on repassera. Donc il y a pas mal de choses qu'il invente, hein. Donc des fois je rétablis un peu la vérité. Et au début, donc, j'introduis toujours par une notice biographique, et il y a même un journaliste qui m'a dit que certaines notices biographiques sont plus importantes que le témoignage lui-même, ce qui n'est pas faux non plus. Et le témoignage le plus court que j'ai, c'est Tristan Tzara, ça fait 2 lignes, dans lequel il raconte qu'il a vu Céline chez De Noël, le personnage était fou, je suis reparti. Donc voilà, c'est le plus court, et j'en ai des longs qui font 60 pages, quoi. Donc il y a un petit peu de tout en termes de taille du texte. Et effectivement, donc ils sont tous introduits parce que bon, effectivement, on retrouve le même écueil. Arletty et Le Vigan, ça peut parler à des personnes, mais il y a d'autres, ça ne parle pas beaucoup. Puis j'aime bien ce côté aussi, ça permet de rééquilibrer les choses. Quand par exemple, vous avez une notice sur Darquet de Pellepoix, bon, vous allez dans la rue, Darquet de Pellepoix, ça ne dit plus grand-chose aux gens. Je trouve que c'est intéressant, puis c'est logique aussi d'expliquer qui est quand même Darquet de Pellepoix, de son rôle pendant l'occupation, et c'est quand même quelqu'un qui a dit en 1978, avant de mourir, qu'à Auschwitz, on avait gazé que des poux. Donc c'est quand même un type qui a quand même un passé idéologique très chargé. Donc les notices permettent aussi d'équilibrer. On pourrait légitimement trouver que c'est très sympathique avec certaines personnes. Bon, bah, certaines personnes sont quand même des officiers SS ou des choses comme ça. Donc ça permet aussi de faire un peu la part des choses.
Je me permets, d'aucuns diront que je suis complaisant à votre endroit, ce n'est pas mon habitude, mais je pense que vos notices sont très équilibrées. Je dis cela, par exemple, nous avons évoqué tout à l'heure en aparté, vous et moi, la façon dont vous présentez le texte de Roger Vaillant, à Céline en substance.
On aurait pu le buter en 44, on ne l'a pas fait, on le regrette. Quoi.
On le regrette, donc, exactement. Vous pouvez en dire un mot, là,
Oui, c'est en 44, donc c'est Roger Vaillant a donné un témoignage peu avant un an ou deux avant de décéder. Oui. Et en fait, Roger Vaillant faisait partie d'un réseau de résistance. Et ce réseau avait comme, on va dire, quartier général, l'appartement qui était juste en dessous de celui de Céline à Montmartre. Donc, effectivement, le réseau de résistance croisait souvent Céline. Et à un moment donné, ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le laisse passer ou est-ce qu'on le bute ? Et ils ont pesé le pour et le contre. Et à un moment donné, c'est le contre qui l'a emporté parce qu'ils se sont dit, si on bute Céline, forcément la Gestapo va rappliquer dans tout l'immeuble et notre planque, finalement, va être découverte. Et ils se sont dit aussi que finalement, personne n'irait chercher des résistants en dessous chez Céline. Or, Céline savait parfaitement ce qui se passait. Céline était tout sauf fou, et il savait parfaitement que l'appartement du dessous servait à des réunions de la résistance, et même, il raconte, il y a Champfleury qui raconte qu'une fois, il y avait un résistant qui était ressorti un peu amoché de la Gestapo, enfin un peu amoché, c'est même plus que ça, d'un interrogatoire de la Gestapo, et donc ses copains résistants l'amènent se faire soigner dans l'appartement de Champfleury, qui était une planque pour résistants, et ils se trompent d'étage, ils vont chez Céline. Et là, les pauvres résistants, ils voient Céline qui va s'occuper du gars, il est docteur, donc il soigne le mec qui est amoché, et Céline voyait bien, il avait bien vu qu'il n'était pas tombé dans la rue, hein, donc il l'a soigné, et après ils sont redescendus à l'étage du dessous, ils ont dit, oh là là, faut se planquer, Céline, et en fait, tout l'immeuble savait, enfin, Céline savait ce qui passait en dessous de chez lui, il les a jamais dénoncés. Quoi, donc. Et donc, à un moment donné, ils ont dit, bon, un, on ne tue pas les écrivains, pas de sang-froid comme ça, il y a des tribunaux pour ça, et deux, il y avait plus d'avantages à le garder dans le même immeuble. Aucun Allemand n'ira chercher un réseau de résistance sous l'appartement de Céline. Quoi.
Voilà. Peut-être, si vous le désirez, vous pouvez nous dire un mot du rapport de Céline aux femmes.
Très complexe.
Hein. Très complexe, mais je trouve que dans votre livre, il y a de très beaux témoignages, celui de Lucette et puis celui d'Elisabeth Gregg.
Tout à fait. Ben, Céline a toujours exercé une très grande fascination sur les femmes. Là, sur Céline, il y a beaucoup de témoignages qui se contredisent ou autres. Mais avec les femmes, elles sont toutes unanimes pour dire que c'était un homme extraordinaire. Un homme très... un physique d'athlète, un regard envoûtant, un magnétisme. Même quand il était habillé en clochard, certains disaient qu'il était irrésistible. Quoi. Donc il y avait une forme de magnétisme en lui, un beau regard, façon de leur parler, une certaine forme de galanterie qui fait qu'il les faisait toutes tomber, quoi, pour ainsi dire. Quoi. C'était un véritable séducteur. Un bel
surtout
homme,
les danseuses.
Mais lui avait une préférence, effectivement, c'était pour les danseuses, que monsieur avait des goûts de danseuses. Pour une raison très simple, c'est que comme Céline avait vécu la Première Guerre mondiale et que pour lui, la guerre, c'était les hommes, c'était la lourdeur, il s'échappait de la lourdeur avec la grâce des danseuses, les jambes fines des danseuses, la légèreté avec laquelle elles se déplacent. Pour lui, c'était le sommet de la grâce et de la beauté. Et c'est pour ça qu'il a toujours vécu entouré de belles femmes et il a toujours choisi ces femmes parmi les danseuses. Pour lui, c'était le plaisir, la récréation, c'était la beauté même sous les yeux, quoi, quasiment.
Je pense que vous êtes tout à fait en mesure de me déniaiser. Il me semble qu'à un moment ou à un autre, parlant des femmes, Céline a dit « Quant à l'esthétique, je suis un Athénien ».
Qu'est-ce que vous entendez par là ? Précisez.
Ben justement, c'est-à-dire que, me semble-t-il, concernant la beauté des femmes et des danseuses, son modèle mental était un modèle, disons, d'une beauté plastique grecque.
Oui, bah, parfaite, voilà. Une beauté parfaite. Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs que Craig l'a quittée, parce qu'elle voyait que son corps changeait, et qu'elle le dit d'ailleurs dans le témoignage.
Exactement.
Elle le dit, je voyais que mon corps allait changer et que je n'allais plus le passionner autant. Et d'ailleurs, lorsque Craig le quitte, la première femme à qui il lui propose un mariage, quasiment un an après, c'est Karen Jensen, qui est aussi une danseuse danoise, scandinave, donc une belle scandinave et en plus une danseuse. Donc là, on est vraiment dans les fées des pays du Nord, là. Donc, mais lui, effectivement, c'était une beauté plastique parfaite. Voilà. Ce qu'il aimait beaucoup dans les danseuses, oui, tout à fait.
Bien. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Je remercie le public.
C'est moi
qui
vous remercie.
J'ai envie de dire, revenez à Bordeaux bientôt pour que nous puissions poursuivre cette discussion autour de Céline et son œuvre.
Ce sera avec plaisir.
Dans le public et dans l'assistance, il y a des personnes qui veulent une signature. Eh bien, ma foi, c'est le moment. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation à cette rencontre. Merci beaucoup.